right, c'est parti. Bienvenue dans l'Open Mic. Mon nom, c'est Yann Marceau. Son nom, à elle, c'est Audrey Pinchot. L'Open Mic, c'est quoi? C'est un show humain avec qui on aime bien discuter.
Oui, parce que ce show-là est une personne. Hein?
C'est, oui. Pour les êtres humains.
Non, mais c'est une émission où on se rapproche de vous autres.
Des humains.
Pour se rapprocher de vous autres, il faut vous donner nos différentes coordonnées. Le 418-971-1021 texto.
Exact.
Vous pouvez nous appeler aussi. Yann aime ça parler au téléphone.
Ce genre de matin-là, j'aimerais ça avoir des shots de tequila.
Ah ouais, t'aurais besoin d'un petit remontant?
Ouais, je sais pas si c'est ça. C'est... Ça te fait-tu penser à quelque chose, ça?
Tequila!
On est quel jour aujourd'hui? C'est jour de paye?
Oui!
Bon, voilà.
C'est festif.
À un moment donné, vas-tu le dire? Ben...
Mais là, je l'attends impatiemment. Là, je vous en veux, je pense. C'est là, c'est là.
Go!
Tequila!
Tequila!
Wow!
T'as-tu déjà vu la vidéo de ça? Un gars qui est allé faire America's Got Talent.
Non.
C'est l'affaire la plus drôle que j'ai vue de ma vie. Rarement, je suis sur YouTube puis je check des affaires pour le fun puis je me perds dans YouTube. Mais j'étais tombée sur cette vidéo-là où c'est un gars qui a décidé d'aller faire la compétition. T'es censé avoir un talent.
Ouais.
Et il se présente sur le stage avec une grosse TV puis c'est le karaoké de tequila. Puis le gars, il est là, puis il bouge pas, mais il est poker face. Il regarde le public, puis tout ce qu'il attend, c'est « tequila ».
Ah ouais.
Écoute, rire comme ça, là. Le gars, il est bright, là. Il a passé.
Ils l'ont fait passer, mais là, après ça,
pas gagné,
tu fais quoi comme spectacle?
Là, je veux dire, ben non, mais tu sais, c'était une joke.
Mettons
là.
Que t'es accepté, là, le deuxième, tu fais quoi
ben
pour
là,
faire réagir autant?
J'imagine qu'il a trouvé une autre. Écoute, je connais pas la suite, là, mais je sais que cette vidéo-là est emblématique.
Karaoké avec cette toune-là, ouais, effectivement.
Ouais.
Effectivement. T'as-tu passé une belle soirée hier?
Oui, j'ai quand même passé une belle soirée. J'étais dans un papier de voyage. Il faut remplir des affaires maintenant là, pour rentrer en République.
OK.
Puis pour sortir de la République.
OK, je savais pas.
Ben moi non plus, je savais pas avant hier. Il faut remplir ça 72 heures d'avance. Fait qu'hier, on était là, puis on remplissait nos papiers sur Internet, puis on imprimait nos dernières affaires.
Est-ce que c'est ton agente de voyage qui t'avait fait part de ça?
Oui, ben oui, parce qu'honnêtement, j'aurais jamais su, puis j'aurais fait un saut en arrivant là-bas, probablement. J'imagine que tu peux le remplir sur place, là, probablement que c'est préventif.
Mm-hmm.
Mais j'ai passé ma soirée à faire de la paperasse, puis je suis tombée comme une mouche, là. Et j'étais vraiment fatiguée. Fait que je me suis couchée relativement tôt hier. Ça a été une soirée plate, pour vrai.
Ouais. Il y avait un truc que tu devais remplir au Mexique. À ton arrivée, là, ils te donnaient un genre de petit coupon dans l'avion, comme quoi tu devais remplir. Tu sais, il y avait combien de personnes avec toi, les bagages, tout ça. Puis tu devais le conserver tout le long de ton voyage. Puis au retour, il fallait que tu donnes ça à un agent d'immigration. Là.
C'est peut-être ça qu'on a rempli d'avance.
Il y a plein de gens qui perdaient ce papier-là. Il fallait que, tu sais, quand tu es en retard, admettons, pour ton vol, il est supposé de partir dans une demi-heure, puis là, tu es stressé. Puis là, tu as la personne qui dit non, ça me prend absolument. Ce papier-là.
T'as-tu pas le temps de gérer ça?
T'es obligé d'aller à l'autre bout de l'aéroport. Ça m'est arrivé une fois. Ça date de quelques années, ça, d'ailleurs. Et la personne était vraiment pas stressée. Puis inquiétez-vous pas, ça va faire 67 $. Puis là, ben, elle te redonne ton petit papier. Puis là, tu écris, ben, on était deux personnes.
Tu recommences le processus.
Tu recommences.
Ah, c'est
puis après ça,
là.
Tu repasses devant le gars qui ramasse les papiers. Puis qui dit, OK, c'est beau, tu peux passer. Mais ça n'existe plus au Mexique. Il y en a qui ont eu, dans les derniers mois, je sais pas si. Si c'est partout au Mexique, là, mais dans les derniers mois, il y a des gens qui m'ont rapporté avoir reçu une taxe mexicaine.
Bien, tu dis ça, puis on reçoit un texto. Oublie pas de garder 20 $ US pour ressortir de la République.
Ouais.
C'est-tu le même genre d'affaires?
Possible, je sais pas. Mais pour ce qui est du Mexique, il y a certaines personnes qui ont eu une petite taxe mexicaine à l'aéroport. Moi, j'ai pas eu ça, puis je suis atterri à Cancun.
C'est une fraude, ça? C'est-tu juste comme... T'sais, parce que tu le sais tellement pas quand tu voyages, puis tu parles pas la langue.
Bien, les Mexicains, c'est tout des crosseurs, là.
Ben, ça sans généraliser, je veux dire, peut-être.
Ah oui, c'est tout des croissants.
Non, je ne sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui a été défini par le pays. Puis,
ça se peut.
Tu as une taxe à passer quand t'es à donner quand tu es à l'aéroport.
Parce qu'il y en a qui en profitent. Là.
Au nombre de taxes, c'est site, là, d'après moi, les Mexicains doivent dire qu'on est tous des crasseurs.
Peut-être, probablement. Fait qu'ils se disent, on va en profiter.
Un tabarnak, une taxe à la province, une taxe au Canada, une taxe à Québec.
C'est beaucoup d'ajustements, effectivement.
J'achète trois voitures. Les trois voitures usagées payent encore des taxes.
J'espère que...
C'est des crasseurs.
On a tous des préjugés. Hein, face... Chaque fois qu'on voyage, il y a des préjugés qui ressortent. Puis ce qui est ironique, c'est probablement qu'ils existent pour une certaine raison, à quelque part. On va se le dire, là.
Ouais.
Autant sur nous que sur n'importe qui, là. Hey, rapidement, je veux juste te dire que dans la circule, c'est rare qu'on a, là, à cette heure-ci, là, mais il y a quelques affaires à vous mentionner. Henri IV Nord, à la hauteur du boulevard Champlain, à la sortie du pont Pierre-Laporte, il y a un accident à la voie du centre qui est bloquée. Puis Robert Bourassa Nord, à la hauteur du boulevard Le Bourgneuf, la voie de droite qui est bloquée, c'est une panne. Le remorquage est en cours, évidemment. Il y a quoi que ce soit d'autre. 88-971-1021, mais ça crée quand même pas mal de problèmes si vous tentez d'aller chercher le pont direction Nord à partir de la 73 ou de la 20.
Là. Fait que là, t'arrives... en fait, tu pars quand en avion?
Je pars samedi.
Ouais. Je veux juste te rassurer, là. Il n'y a pas de danger en avion. Tu peux... C'est rare, vraiment rare, les accidents d'avion.
Je veux juste te dire
ça
que
arrive
je suis
jamais.
Angoissée depuis hier soir. Non, mais d'un, c'est tragique, c'est à glacer le sang.
Hey, c'est 67 là. Personnes qui auraient perdu la vie, 64 qui étaient dans l'avion commercial, 3 personnes qui étaient dans l'hélicoptère de l'armée américaine. Ouais. On va jaser de ça, d'ailleurs, tantôt avec un expert en aviation, c'est Charles-Éric Lamarche qui va être avec nous autres, puis on va essayer de comprendre comment ça peut arriver. Moi, j'ai mes cours de pilotage, puis, mais j'ai jamais eu affaire avec des aéronefs de l'armée canadienne. Fait que je ne sais pas si les communications de l'armée des États-Unis versus les communications de l'aéroport de Washington, si ces gens-là se parlaient.
Ouais.
Parce que techniquement, tu sais, t'as Québec Air, puis t'as Québec Sol à Québec. Puis quand t'es au sol, ben c'est Québec Sol qui te parle pour te dire voici où, comment t'as déplacé tout ça. Puis quand t'es Québec Air, quand tu te décolles, ils vont te dire, regarde, il y a quelqu'un qui s'en vient, là, tu le vois-tu à ta droite? Là? OK, oui, je le vois. Parfait. Lui, il check comme quoi tu l'as vu. Puis par la suite, il te donne la permission de décoller. Puis si jamais sur ton décollage, il voit qu'il y a un avion qui est proche de toi, il va te demander de le confirmer visuellement.
Ouais.
Mais là, c'est ça. Comme c'est l'armée versus l'aviation commerciale.
Ça a l'air que c'était des je vais appeler ça des étudiants, là, c'est pas le bon terme, là, mais ça a l'air
un cours de pilotage.
Exactement.
Ouais. Fait que je sais pas si tout ce beau monde-là sont capables de se parler. Parce que visuellement, ils sont capables de se voir.
Ouais.
Est-ce que toutes les lumières de l'hélicoptère étaient allumées? C'était un hélicoptère de l'armée. Est-ce qu'il faisait semblant de faire de la reconnaissance et tout ça? C'est toutes des questions qu'on va poser à Charles-Éric Lamarche tantôt. Mais effectivement, une tragédie dans le secteur de Washington où 67 personnes auraient perdu la vie. Les conditions sont pas évidentes, les conditions de recherche. Là, on parle d'un genre de moins 12 comme température.
Bien là, c'est ça l'affaire. C'est que jusqu'ici, c'est autour de 28 corps qui ont été retrouvés dans le fleuve Potomac. Ce qui est particulier, c'est que s'ils ne sont pas décédés du crash d'avion, c'est probablablement d'hypothermie. Là, ils sont encore à la recherche de survivants, puis on se croise les doigts pour qu'il y en ait. Mais de ce qu'on comprend à travers les médias, c'est ça. Il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable.
À moins que l'avion soit tombé puis d'un bon angle, puis il reste des poches d'air.
Hey boy.
Ce qui pourrait peut-être arriver. Mais en fait, si on en croit les secouristes là-bas sur le terrain, ils n'ont aucune...
Ça s'annonce pas bien, là.
Ils n'ont aucune confiance de retrouver des gens vivants. Fait que pars en paix, samedi.
Oui, ben je... Écoute, c'est ça.
Là, est-ce que tu vas t'asseoir derrière la cabine de pilotage pour être en avant? Est-ce que tu vas être à la hauteur des ailes ou est-ce que tu vas être vers la queue de l'avion?
La queue, c'est le plus sécuritaire, il paraît, mais non, moi, je suis en plein milieu.
Exactement!
Là où je
la place pour pas souffrir.
Oui, c'est ça.
Parce que le gaz est là. Hein?
Ouais,
parce
ouais.
que le gaz est dans les ailes, ce qui fait en sorte que s'il y a quoi que ce soit, ben tu vas être la première à en être informée.
Ben et sais-tu quoi? Puis là, c'est, je veux pas qu'on rie non plus de ça parce que c'est vraiment tragique, là, mais honnêtement, là, je pense que si malheureusement il y avait à y avoir une tragédie comme celle-là, je préférerais décéder sur le coup que de voir la panique, de sentir la mort venir, mettons. Là. Fait qu'on le souhaite pas. Hein? Je souhaite qu'on se retrouve dans une semaine, là, mais je suis aux ailes, effectivement. Sur le bord de l'allée, parce que j'ai des grands pattes. Fait que je suis pas sur le bord de l'îlot. Tout devrait bien se passer, là.
Mm-hmm.
Tu me stresses?
Non, mais c'est ça. Quand on regarde les statistiques à travers le monde, Audrey, l'avion, c'est le mode de transport le plus sécuritaire de la planète. T'as plus de chances de te faire frapper dans la rue aujourd'hui que de faire un accident d'avion. Tu sais pourquoi tu y penses? Parce que t'es en contrôle de rien.
Effectivement. T'es puissant. Quand tu rentres dans l'avion, je veux dire, tu fais confiance au pilote.
Exact. Puis... parce que tu sais, tu peux pas ouvrir la porte. Là. Une fois que t'es parti en vol, tu peux pas ouvrir la porte pour sacrer ton regard pour dire hey, « moi, c'est fini ».
Non.
Fait que tu t'assois, tu bookes ta ceinture, t'écoutes la madame t'expliquer comment faire en cas d'urgence, puis après ça, tu décolles. Puis après ça, t'es dans les airs, là, t'as un petit moment relax. Puis le moment où il atterrit, là, t'as comme un petit stress, alors que c'est l'endroit où tu devrais peut-être le moins stressé. Là, l'atterrissage... Quoique hier, c'est peut-être différent, mais l'atterrissage, c'est le moment le plus... normalement, c'est le plus sécuritaire ouais. parce que les gars connaissent leur travail, sont assistés avec plein d'ordinateurs. Quand même qu'il y a du gros vent, ils sont capables d'atterrir pareil. Puis la seule différence qu'il peut y avoir, c'est qu'ils descendent-tu trop vite puis ils freinent-tu trop vite. Quand t'en pognes un qui descend vite... là, tu le sens, là, les bébés pleurent parce que leurs oreilles, ça fait mal.
Ça fait mal, ben oui,
puis
la pression.
Puis là, toi, t'es là, t'essaies de faire semblant de bailler
pour aller... manger la gomme.
Pour essayer de dégager. Puis quand ils freinent rapidement. Ben, moi, le dernier que j'ai pogné, là, c'était ça. C'était probablement le copilote qui était en formation avec le pilote. Il descendait très rapidement. Fait que les bébés braillaient parce qu'ils avaient mal aux oreilles. Les gars comme les filles, ils se tenaient les oreilles en disant « Voyons, comment ça, j'ai mal de même? » Puis après ça, on est atterri. Écoute, c'était les freins au fond. Puis on s'est quasiment tous ramassé la tête dans le bain en face.
Ouais.
Ben ça, c'est souvent des gens qui doivent faire leurs heures de vol. Puis de s'entraîner à piloter ce genre d'appareil-là.
Ben tu vois, moi, ça m'est arrivé juste une fois, ça. L'atterrissage un peu brusque. Puis honnêtement, ça crée un stress. Parce que ça shake, là. T'es pas nécessairement bien. Honnêtement, moi, ça, j'ai hâte de partir, là. Je veux dire, là, on parle de cette malheureuse tragédie-là. J'ai hâte de voir comment mon chum va réagir, étant donné que c'est son premier vol depuis 15 ans. Mais non, ça va bien se passer.
Ça fait 15 ans qu'elle a pris l'avion?
Oui. C'est fou, hein?
Tu te souviens-tu de la première fois que t'as pris l'avion?
Oui.
Ouais.
Oui. M'en allais justement à Punta Cana.
T'avais quel âge?
J'avais 11 ans, 10-11 ans.
11 ans, avec tu t'en mon souviens père. Encore. Ouais. J'ai trouvé ça beau parce que le dernier voyage que j'ai fait, il y avait un petit gars qui était à peu près de l'âge de mon plus jeune, il avait 8 ans. Puis il me racontait que... Ben en fait, il me racontait pas à moi, mais il racontait à ses grands-parents qui étaient à côté que c'était la première fois qu'il prenait l'avion. Puis ses grands-parents l'avaient mis du côté du hublot.
Oh.
Puis c'était un beau petit bonhomme, là, genre 8 ans. Puis le décollage, il l'a regardé du début jusqu'à la fin. Puis après ça, quand il a vu ce qu'il y avait au-dessus des nuages, tu sais, il y avait un beau gros tapis de nuages, mais au-dessus, c'est clair. Là, c'est clair comme aujourd'hui sur au-dessus de Québec. Puis là, je le regardais dehors, puis j'avais l'impression qu'il rêvait.
Il était émerveillé.
Il était émerveillé, mais il m'émerveillait aussi parce qu'on voit plus ça à travers nos yeux d'enfant.
D'adulte.
Non, mais nous autres, on n'a plus de yeux d'enfant. Fait pour avoir encore des yeux d'enfant, il faut que tu regardes tes propres enfants ou les enfants des autres pour voir comment ils observent le monde.
Tu vois, moi, je me trouve vraiment chanceuse parce que j'ai encore un peu ça. J'ai encore une petite partie de lunettes roses.
Oui, c'est pour ça que c'était retardé.
Oui, bien, j'ai essayé d'embrouiller la tangente, j'ai pas été
excusez-moi, c'est parce que notre matin, il était difficile, là. Fait qu'on essaie de la faire rire un peu.
C'est peut-être ça, j'ai peut-être un certain retard, écoute, c'est possible. Mais quand je suis revenue du Portugal l'an passé, puis j'avais jamais réalisé, tu sais, on le sait, mettons, que c'est clair là-haut, là.
Oui.
Mais j'avais jamais vu, moi, un switch, mettons, de température. Puis quand on est parti de Lisbonne en février dernier, il pleuvait, c'était gris, là, c'était vraiment laid comme température. Puis là, on montait, puis moi je suis cet enfant-là qui aime être sur le bord de l'hublot, là, parce que tu peux tout voir. Puis vraiment, de voir, on montait, puis les couches de nuages, puis là, on était sur l'heure du souper, fait qu'il y avait le coucher de soleil.
Uh-huh.
Fait qu'à la dernière étape, carrément en haut, je veux dire, c'était complètement fou, là. Une boule de feu, tu comprends, c'était dégagé, c'était tellement beau de voir la différence entre ce qu'on vivait au sol, qui était dégueulasse, plein de pluie, plein de nuages, c'était gris, versus ce qu'il y avait en haut.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça capoté. J'ai jamais pris autant de photos dans mon séjour qu'à ce moment-là dans l'avion.
Tu sais, à Montréal, ils ont des problèmes de température, là, mais ils n'en ont pas autant que nous. Puis je pense que nous, on a ces problèmes de température. Là, quand il y a une grosse couverture nuageuse, là, elle est longue à partir. Puis si je me trompe pas, on m'avait expliqué que c'est en raison du fleuve Saint-Laurent qui se rétrécit. Il faudrait parler avec des gens qui sont des experts là-dedans. Là. Mais on m'avait mentionné que quand il y a une bonne grosse couverture nuageuse sur Québec, là, c'est long à partir, puis c'est plus long qu'ailleurs, ben, que Montréal, exemple, parce qu'il y a justement le fleuve Saint-Laurent qui se rétrécirait. Et t'sais, des fois, tu pars de Québec, là, c'est une température de cul, mais dès que tu dépasses les nuages, c'est comme
c'est
si t'étais...
t'es ailleurs, là!
C'est comme si t'étais ailleurs. Hey, tu regardes en bas, il n'y a plus de bâtiments, c'est juste des nuages.
Ouais.
Fait que de voir ce petit enfant-là, pour y revenir, là, de voir ce petit enfant-là qui voyageait pour la première fois puis qui regardait au travers du hublot, je trouvais ça beau. Puis j'avais le goût quasiment de prendre une photo, mais là, un monsieur de 40
c'est
ans
louche.
Qui prend la photo...
T'as bien fait!
De 8 ans. Hey, le petit Guillaume qui regarde par la fenêtre! Bon bonhomme!
Est-ce que t'as déjà traversé un nuage? T'as-tu déjà sauté en parachute?
Oui.
T'as-tu déjà traversé un nuage? Dans
oui.
ton saut, il faisait vraiment beau. Oui?
Je ne l'ai pas traversé complètement. Là. J'essayais de me rendre, puis, mais j'ai pogné le bord, puis ça fait comme un petit truc d'humidité
ouais.
sur le corps.
Ouais. Moi, je suis tombée face à face avec. Là. C'était pas un choix, ça a donné de même. Ouais. Puis du coup, j'ai quasiment eu peur, là, parce que c'est comme tout brouillé le temps d'un instant. Là. Puis pendant qu'on volait, c'est vraiment ce à quoi je pensais. T'sais, ça a l'air d'un tapis blanc, les nuages, là, quand t'es rendu en haut, sauf qu'en même temps, je veux dire... Tu le défonces assez rapidement. C'est rien, dans le fond. Là.
Ouais.
Ça me fait complètement capoter. Avez-vous des destinations prochaines? Parce que là, on rêve parce que je pars bientôt, mais peut-être que vous partez éventuellement aussi, 88-971-1021.
Là, on est dans les si, là. Mais admettons que tu fais un saut en parachute puis
ouais.
tu es au-dessus des nuages. Est-ce
ouais.
que ça te fait plus freaker que si tu sautes puis il n'y a pas de nuages pendant tout?
Moins, parce que je vois pas le sol.
OK. Ben moi, c'est le contraire.
Parce que tu sais pas ce qu'il y a en dessous.
Parce que je sais pas ce qu'il y a en dessous. Huh. Si t'as, mettons, t'as peur de tomber sur la pointe de l'Empire State Building. Tu sais, comme... Péteux
ouais.
là-dessus.
J'ose espérer empaler. Hey, c'est beau, les images, ce matin. Là. J'ose espérer que mon instructeur m'amènerait pas en plein milieu de New York. Là.
Ouais.
Fait que j'aurais confiance pour cette raison-là. Mais de toute manière, si jamais vous avez jamais sauté en parachute, là, parce qu'il y a des gens qui ont peur des hauteurs, puis j'en fais partie, ce qui est le fun, c'est qu'à un certain point, t'es tellement haut dans le ciel... que tu n'as plus la perception du sol. Fait que tu l'as plus, ce vertige-là. Je pense que ce qui fait le plus peur, c'est que quand tu es près de la porte, tu te sens aspiré vers l'extérieur. Mais je veux dire, quand tu regardes en bas, ton cerveau ne comprend pas que le sol est là. Fait qu'il n'a pas cette perception-là de grande hauteur puis cette peur-là. Hein. C'est à vivre dans sa vie.
Il y a l'altimètre aussi, il faut que tu surveilles, ça a l'air. Là. Mais c'est comme quand tu fais de la plongée sous-marine. Quand tu
ouais.
fais de la plongée sous-marine, peu importe la profondeur, il faut que tu regardes où est-ce que tu es rendu parce qu'il y a, il y a des limites là, où tu pourrais aller.
Pour l'oxygène et tout.
Puis oui, puis tu as des paliers à faire par la suite pour remonter. Mais à un moment donné, tu te rends plus compte que tu es dans l'eau. Là.
Tu sais qu'on va parler avec un scaphandrier bientôt. Hein?
Oui, c'est Geneviève qui m'a parlé de ça hier.
C'est vraiment hot. J'ai hâte d'en savoir plus, en fait, là, les plongeurs sous-marins qui effectuent des explorations et compagnie. Mais dans deux semaines, on va pouvoir parler avec un gars qui fait ça de sa vie puis qui voyage un peu partout. Puis ça, tu vois, je sais que toi, tu fais de la plongée. Moi, ma mère a été archéologue sous-marine. Là. Fait qu'à travers ses histoires puis ses yeux, j'ai pu comprendre un peu. Mais moi, j'ai pas encore fait mes cours.
Ouais.
C'est un petit rêve. J'aimerais vraiment ça.
Il y a plusieurs types de scaphandriers. Il y en a qui le font par loisir.
Ouais.
Je les salue. Là. C'est pas le genre de choses que je ferais par loisir. Je préfère la plongée sous-marine. Ça m'offre une plus grande liberté. Mais ceux qui font ça comme métier, exemple, les soudeurs,
mm-hmm.
ben, ils peuvent passer des jours et des jours dans le fond de l'eau. Puis quand ils doivent aller se coucher, ben, ils couchent dans le fond de l'eau aussi, dans des cabines pressurisées. Je sais pas si c'est le cas de notre scaphandrier.
Et c'est malade mental,
mais ils dorment dans le fond de l'eau. Puis ils peuvent être là pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines. Ils sont en contact avec l'extérieur, mais sont dans le sol. Puis après ça, ben, quand il faut qu'ils reprennent leur travail, ils s'habillent avec leur costume de scaphandrier, ils ressortent avec leur matériel de soudure, puis let's go, ils continuent. Là.
C'est capoté pareil.
Mais je pense que c'est le cas du scaphandrier qu'on va recevoir.
Mais j'ai vraiment hâte de connaître son quotidien, parce que moi, ça a toujours été de façon récréative que j'ai entendu parler de la plongée. Ou tu sais, je veux dire, ma mère, dans ce qu'elle faisait, tu remontes à la surface un moment donné, là, tu fais tes recherches, mais tu restes pas dans l'eau. Là. Fait que c'est vraiment particulier. On a pas mal de monde qui vont voyager prochainement, Yann. Je pars 24 jours en Thaïlande, fin novembre 2025. C'est Eric qui nous dit ça. Il y a Alex qui part demain soir pour Paris.
Ouais, Thaïlande, je voulais organiser... Ben en fait, c'est encore dans ma tête, là, mais je voulais m'organiser avec une vingtaine de plongeurs, plongeuses pour aller faire un tour là-bas. Ça
Arrête.
A l'air que c'est magistral. Mais une semaine, c'est pas assez. Ça serait deux semaines. Je veux pas y aller tout seul. Tu sais, un gars qui va tout seul en Thaïlande, là... Ah ouais, mon petit morceau, tu vas en Thaïlande! Ladyboy!
T'aurais sûrement du fun!
Mais, ouais, ben non, pas avec les Ladyboys. Mais,
J'imagine.
Mais je voulais partir une vingtaine ou une trentaine. Puis j'ai des chums aussi qui peuvent m'aider à organiser ça. Là. Mais une vingtaine, une trentaine de plongeurs, plongeuses. Puis on s'en va toute la gang-là 2 semaines. Puis on explore les, tout ce qu'on peut explorer dans les fonds marins de la Thaïlande. Moi, je triperais.
Je te le souhaite. Ah, ouais. Je te le souhaite vraiment.
On pourrait peut-être organiser ça avec les patrons.
Ah, j'aimerais ça.
C'est peut-être pas la journée pour leur en parler, mais on pourrait peut-être parler de ça.
Bien, quand ils seront disponibles, je sais qu'il y a des meetings. Il y a des meetings aujourd'hui, mais demain, on pourra peut-être passer le message.
Tu sais, quand t'arrives, il y a eu des grosses journées, puis là, tout arrive avec
un gros projet.
Hey, j'ai quelque chose à te jaser,
boss. Pas le temps, une chose à la fois.
J'aimerais ça être payé pour aller en Thaïlande.
Mais avec des auditeurs.
Pour faire de la plongée sous-marine, mais avec des auditeurs.
Mais moi, je trouve ça pas pire.
Lui, ça fait 8 heures qu'il est en été.
Hey, gros sujet aujourd'hui.
Ouais. Ah oui, on parle des petits vieux qui vivent de plus en plus longtemps et avec raison puisqu'ils prennent leur santé en main.
Il y a du bon puis il y a du mauvais parce que la population vieillissante amène aussi des problèmes au niveau du système de santé. Fait qu'on va jaser avec un médecin spécialiste en gériatrie, Thomas Tanou, docteur Thomas Tanou, qui va être avec nous dans les prochaines minutes. Plus tôt cette semaine, je te parlais, Yann, d'une toune qui représentait à quel point Québec était petit pour le dating. On la joue ce matin.
Bon Dieu, que j'aime ça, cette toune-là. Jérôme 50. Les doubles sur Boulevard. D'ici là, si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021. h 24 minutes, c'est moins 20 degrés sur Québec. Si vous êtes au Grand Vent, c'est une température ressentie de moins 23. Je salue les gens de CAA Québec, les remorqueurs qui doivent avoir de la job comme pas possible aujourd'hui. Ça va être l'enfer. Avant, les gars, ils devaient ouvrir leur capot là, de la remorque, puis après ça, booster à même la remorque. Maintenant, ils ont leur petit kit.
Ce qui est plus pratique, on va se
le dire. Ce qui est plus pratique, puis je vous invite à le faire. Si vous avez un véhicule qui... puis même là, tu sais, l'avoir tout le temps un dans le garage, même si ton véhicule est neuf, pour te dépanner, pour dépanner pour
mais
ce
dans le char.
Ah ouais, tu sais, ma moto, là, moi, quand je vais où je l'entrepose, elle n'est pas à chaleur. Là. Fait que, tu sais, la batterie mange un coup. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte que quand je vais la repartir au printemps, ben je vais devoir la booster. Normalement, je la booste avec ma voiture, mais ce petit starter pack-là, je ne sais pas comment ça se dit en français, là, mais tu peux acheter ça chez Canadian Tire. Pis c'est super, super pratique. Attends aussi longtemps que tu le gardes chargé.
Pousser même plus que ça, là, il y a carrément des coffres de survie que tu peux mettre en voiture. Là, c'est full petit, t'as tout là-dedans. Là, genre, tu fais un accident en hiver, t'as une couverture thermique, t'as plein d'affaires, puis t'as les boosters. Moi, je trouve ça super pratique, je laisse ça dans mon char 24/7. Là.
Exact. Donc, moins 33 au Grand Vent, on vous salue, ceux qui travaillent à l'extérieur. Ça doit pas être facile, c'est ensoleillé pour aujourd'hui. Accumulation de neige ce soir de 5 cm. Pour ce qui est de demain, vendredi enfin, neige cessant en mi-journée, alternance de soleil et nuages par la suite avec une accumulation de 2 cm par endroit. En soirée, ciel dégagé pour ce qui est de demain soir, minimum de moins 20. Samedi, ensoleillé, maximum de moins 13. Et dimanche, ce sera de la neige intermittente avec un maximum de moins 12. Les déneigeurs qui ont un peu plus de jobs ces temps-ci. Ils ont eu un début d'année assez tranquille, là, mais il me semble que là, moi, ils passent même s'il y a eu juste 2-3 flocons. Là. D'après moi, ils veulent travailler.
Ben, c'est ça, j'allais dire. L'hiver a été tellement tranquille en général que probablement que c'est excitant de sortir. Rapidement, dire que sur les routes aux incidents d'un peu plus tôt, il y a encore quelques ralentissements. Là. Si vous êtes sur la 73 direction nord à l'approche du pont Pierre-Laporte, quelques problèmes aussi sur Guillaume Couture à la hauteur de Chemin des Îles. Pour le reste, ça roule super bien. Quoi que ce soit, 88-971-1021 texto.
Ça roule à Monaco!
Le plus grand festival de bullying.
10h33, on a le plaisir d'accueillir un docteur, un gériatre. Son nom, c'est Thomas Tanou. Il est médecin spécialiste en gériatrie qui va parler avec nous de la population qui se fait de plus en plus vieillissante. On en parlait tantôt, Audrey, toi et moi, les gens ne meurent plus. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, 65-70, fallait commencer à dire au revoir à nos grands-parents parce qu'il en restait pas long. Et là, de plus en plus, il y a des gens qui se rendent jusqu'à 85, 90, même 100 ans. Ma conjointe, sa grand-mère a 105 ans.
C'est capoté, là.
Et son autre grand-mère est autour de 101 ans.
Oui, puis il y en a qui sont en forme. Moi, tu vois, on a fêté la grand-mère de mon chum en fait semaine passée, rendue à 93 ans.
Oui.
Puis ça va très bien, là.
C'est ça. Bien là, c'est ça. Il y a des gens qui sont très, très, très âgés et qui vivent bien. mais il y a des gens qui sont maganés et qui continuent de vivre jusqu'à des âges très, très avancés, comme 90, 95, 100 ans. Puis ça prend des gériatres. Puis tantôt, on faisait une lecture, toi et moi, 148 gériatres seulement au Québec. Des gens de 65 ans et plus, là, j'ai les statistiques de 2023, ça vient de StatsCan, c'est 20% de la population qui ont 65 ans et plus. Donc, des gériatres, là, il n'y en a pas assez. Mais au moins, ça, on s'assure que ces gens-là aient des jobs jusqu'à la fin de leur vie. Là.
Oui, ça, hein?
Donc, on va aller parler à un gars qui va travailler longtemps
pas
en gériatrie. Docteur Thomas Tanou, merci d'être là, M. Tanou.
Ça me fait plaisir.
Est-ce que c'est des choses que vous voyez sur le terrain, ça, des gens qui vivent extrêmement vieux maintenant puis qui sont en santé, versus aussi des gens qui vivent très vieux mais qui sont maganés beaucoup, là?
Oui, mais je vous remercie de cette introduction parce que on a tendance, en tant que professionnel de santé, en tant que médecin en l'occurrence, à avoir un biais de perception. C'est-à-dire, comme on est dans le système de santé, on voit les gens malades, et comme on voit les gens malades, on en oublie que la majorité des gens vont bien. Or, ce que vous avez dit en introduction est vraiment important. La majorité des gens qui vieillissent, vieillissent sans problématique de santé majeure. Pour autant, effectivement, les progrès de la médecine et de la santé publique ont entraîné un vieillissement de la population avec des maladies chroniques diverses, avec des syndromes douloureux chroniques, avec des diabètes, des insuffisances cardiaques, avec tout un enjeu et régulièrement un équilibre à trouver entre la gestion de l'ensemble de leur, on va dire, de leur copathologie. Et c'est exactement là où se positionne le gériatre pour avoir cette vision globale. Donc effectivement, grâce au progrès de l'ensemble des domaines de la médecine, on va dire au sens large, des soins à domicile, on est confronté à l'accompagnement complexe de personnes de plus en plus nombreuses, âgées et très âgées.
Doc Tanou, qu'est-ce qui vous a amené en gériatrie?
Alors, peut-être un très bref préambule. Vous l'avez indiqué en introduction, il n'y a pas assez de gériatres au Québec. Et de fait, j'ai une formation française et j'ai été recruté par le Québec pour compléter les rangs des gériatres québécois. J'ai donc un profil de formation un tout petit peu différent. Les études de médecine ne sont pas complètement montées de la même façon entre la France et le Québec. De ce fait, j'ai un profil initial de médecine de famille. Je rêvais d'être oncologue à la base, au tout début de mes études de médecine. Et dans l'oncologie, j'aimais trois choses. J'aimais la recherche qui était nécessaire. J'aimais la relation particulière que l'on a avec les patients et les familles, parce que c'est quand même la notion de maladie cancéreuse est particulière. Et j'aimais aussi la notion d'éthique et d'approche pluridisciplinaire dans la gestion des soins. Le hasard de mes parcours hospitaliers m'a amené à passer pas mal de temps en gériatrie et j'y ai trouvé un parfait épanouissement sur l'ensemble de ces points, ce qui m'a en fait donné envie d'aller de l'avant sur cette spécialisation, ou plus exactement sur spécialisation telle qu'elle est faite en France.
Comment le système de santé québécois s'adapte à l'augmentation du nombre de personnes âgées puis à leurs besoins spécifiques surtout?
Alors, je dirais que je vais faire la même chose que vous dans l'introduction. On va commencer par le bon.
C'est l'effet sandwich, ça, docteur Tanou.
Parce qu'en fait, on critique, et je ne vais pas épargner les critiques, mais il faut quand même mentionner que c'est un défi pour l'ensemble des pays occidentaux de s'adapter au vieillissement de la population. Et qu'à ce titre-là, le Québec se place pas moins bien que les autres. Pour autant, il se place peut-être pas mieux non plus. Je crois que le principal défi à l'heure actuelle, c'est celui de l'accompagnement du vieillissement à domicile sur un système qui est hospitalo-centré. Et quand on parle de vieillissement, en particulier quand on parle de vieillissement cognitif, on en oublie que les enjeux de la cognition, c'est surtout l'adaptabilité. Et donc, si on reste dans une logique où on s'adapte à la personne et à son environnement, on doit être en mesure de soutenir un vieillissement à domicile, des soins à domicile. Ce n'est pas à la personne de s'adapter à un parcours de santé de plus en plus complexe, mais au parcours de santé de s'adapter à la complexité de la personne.
C'est une question que je me pose, puis j'ai pas cette information-là, Doc Tanou, donc vous pourriez peut-être m'éclairer là-dessus. Je comprends que l'accompagnement à domicile est très intéressant pour nos personnes âgées, mais est-ce qu'on contribue pas à leur isolement? Parce qu'une personne âgée qui va sortir, qui va prendre le taxi ou qui va partir avec son conjoint, sa conjointe ou encore ses enfants vers l'hôpital va jaser, va discuter, va rencontrer de nouvelles personnes, va rencontrer le doc, va rencontrer des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. Il va y avoir du social. Tandis qu'en les gardant toujours à la maison, je me dis, est-ce qu'on les garde pas justement dans un endroit où leur cognitif travaille pas tant, leur physique travaille pas tant non plus, Doc Tanou?
Non, et pour deux raisons. La première, c'est que dans une logique hospitalière qui veut aller vite, les personnes en question sont très assistées, très vite mises dans un fauteuil pour être déplacées dans les ascenseurs, etc. Alors que chez elle, la personne, elle aura beaucoup plus sa propre mobilité. Son environnement social, j'ai du mal à être convaincu qu'il y ait beaucoup de socialisation dans une salle d'attente d'hôpital. Alors que quand vous allez faire une visite à domicile, la personne va vous accueillir en ayant servi un café, quelque chose qui est important pour elle et qui justement va maintenir un certain nombre d'acquis. Une personne qui est déjà isolée, elle n'aura pas plus d'accompagnement dans sa visite à l'hôpital. Mais par contre, une personne qui a ses petits-enfants autour ou sa voisine Ginette qui vient régulièrement la voir, etc., ouais. Plus on la laisse dans son environnement, plus elle aura cette interaction sociale.
Les gros défis de la gériatrie au Québec pour les prochaines années, puis le financement, j'aimerais vous entendre là-dessus.
Le financement est un défi, mais je pense qu'on peut imaginer un certain nombre de stratégies d'optimisation dans la gestion des soins. Une partie de cette optimisation, c'est par exemple, si on revient au service à domicile, de faire en sorte que on est les mêmes préposés qui interviennent chaque jour chez les personnes. On a souvent une critique qui nous est rapportée par les patients et les familles qui disent « Ah, mais vous savez, moi, je préfère les chèques emploi-service que le CLSC parce que c'est jamais le même préposé, on peut pas créer une relation de confiance. » Et ça, c'est un coût monstrueux pour le système de santé. On a bien vu récemment dans l'actualité qu'on faisait des coupes sur ces choses-là. Ben oui, mais si on venait organiser une forme de régularité dans les plannings de soins et de services, le système est pensé pour être efficient pour ses professionnels. Il n'est pas pensé pour être efficient pour ses personnes. Sauf qu'à long terme, c'est un coût. Plus on sera centré personne dans notre approche, centré patient, plus à long terme, on sera efficace.
Est-ce qu'on devrait s'inquiéter, Dr Tanou, parce qu'on entend souvent que le vieillissement de la population, ça va affecter encore plus le système de santé. T'sais, on nous parle d'une fameuse pyramide inversée qui s'en vient là, au début de 2030 là, sur le fait qu'on ne sera plus capable de soigner nos personnes âgées parce qu'il va manquer de personnel soignant, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou vous ne le voyez pas comme ça de l'intérieur?
Alors, si, c'est sûr. Il y a un enjeu de vieillissement de la population, il y a un enjeu de manque de personnel, puis en soi, le fait qu'on ait recruté de l'étranger en est la preuve. Pour autant, je pense que si on met des efforts sur la prévention, on devrait être en capacité largement de réduire. Vous savez que pour le domaine qui est un peu plus le mien, la maladie d'Alzheimer, on sait que 45% des facteurs de risque de survenue d'une maladie d'Alzheimer sont des facteurs modifiables. C'est-à-dire que par une approche de prévention appropriée, on est capable de réduire de 45% le risque de développer cliniquement une maladie d'Alzheimer. Mais ça passe par mettre en place des appareils auditifs pour lutter contre l'isolement social parce qu'on participe à une conversation. Ça passe par plus d'activité physique. Ça passe par lutter contre le tabac, l'alcool de façon excessive, augmenter les interactions sociales. Donc en fait, tous ces éléments qui sont finalement communs à la santé cardiovasculaire, à la prévention des cancers, à la prévention des troubles mentaux, tous ces éléments-là, c'est un package commun qui pourrait être un investissement qui réduira le fardeau ultérieur sur le système de santé.
Doc Tanou, je sais que vous avez une grosse journée, puis il y a des patients qui vous attendent, donc vous étiez dans votre pause, puis je ne veux pas prendre plus de votre temps, surtout qu'il y a des patients qui sont là avec vous. Donc, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci beaucoup pour l'entrevue, vous êtes très pertinent. Puis dans quelques années, bon, on va certainement se croiser, je suis dans la quarantaine, fait qu'à un moment donné, je vais arriver à vous.
Ça fera plaisir de vous accueillir. Bonne journée.
Merci, docteur Nou. Non, mais tu sais, à un moment donné, un gars prend les moyens pour trouver un médecin de famille.
Ben oui, il faut.
On voit docteur Nou qui est bien crampé.
On pourrait certainement y rejaser. Je pense que c'est pas un sujet dont on a fini de parler, le vieillissement de la population.
Ouais.
Ça fait peur d'année en année, on dirait. Puis il y a des gens, malheureusement, qui, c'est plate à dire dit comme ça, mais rendus à un certain âge, ont quasiment hâte là, d'aller rejoindre le Saint-Dieu en haut. Là. Parce qu'ils sont tannés.
Docteur Nou a mis le doigt dessus, l'isolement. Il n'y a rien de pire que l'isolement pour les personnes âgées. Pour moi, les côtoyer dans les dernières années ont été très bénéfiques là, parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas, le merveilleux monde des personnes d'expérience, on va les appeler comme ça. Puis de voir que un truc comme une pandémie qui arrive, eux, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient ça, un peu comme nous, sauf qu'ils sont plus nécessairement en moyen de tout comprendre ce qui se passe, si ce n'est que de voir que, OK, il y a un lockdown, OK, on est pogné dans un foyer de personnes âgées, on n'a pas le droit de sortir de nos chambres ou de nos logements, là, si on peut appeler ça des logements, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus grand comme logement, bien entendu. Les repas étaient livrés à même la porte, donc les employés allaient mettre le cabaret de nourriture à la porte, cognaient. La personne attendait 3 secondes, ouvrait la porte, ramassait son cabaret et ne croisait même pas la préposée aux bénéficiaires qui venait lui porter son repas.
C'est
Par
fou.
La suite, fermait la porte. Moi, j'ai croisé des résidents, Audrey, au jour 1 du fameux lockdown, parce que j'étais allé prêter main forte au château, dans les châteaux Bellevue. Des gens que j'ai adorés, propriétaire du château Bellevue, chalut Fred, s'il est encore là, quelqu'un d'exceptionnel. Au jour 1, j'ai vu des gens qui étaient fonctionnels. Et au 30e jour, je voyais une différence de, entre guillemets, fonctionnelle, parce que mon nez commençait à perdre la tête.
Mais c'est normal, à partir d'un certain âge, c'est prouvé qu'il faut que tu te stimules, il faut que tu continues d'entraîner ta tête, ton corps.
Puis après ça, le gouvernement avait permis des petites marches, des petites marches dans le stationnement. Les familles n'avaient pas le droit de les côtoyer, sauf qu'ensemble, entre résidents, vu que ces gens-là n'avaient pas la COVID, ben, pouvaient marcher ensemble dans le stationnement. Et après une semaine, deux semaines, je revoyais des gens qui reconnectaient avec la réalité. Mmh. C'est complètement fou, tu sais. Puis quand Dr. Tanou mentionne que l'isolement, ça peut tuer son homme, là, il a vraiment raison. Ceux qui sont sourds, nous autres, on travaille avec nos oreilles. Des gars de construction qui nous écoutent, ils nous écoutent plus fort, là, mais les gars de construction qui nous écoutent, qui ont déjà des difficultés à entendre, eux autres, très rapidement, vont devoir, lorsqu'ils auront 60, 70, 80, 90 ans, avoir des appareils pour les oreilles, parce que si tu n'entends pas ce que les gens te disent, tu ne peux plus participer aux discussions.
Puis l'isolement est présent aussi, fait même quand tu es avec des gens.
Tu sais comment il s'appelle le fameux influenceur sur TikTok, là? Il est tout le temps allé, il parle avec son fils, puis il est là, « Hein? Sais-tu de qui je parle? Tacu! »
On dirait que ça me dit « Ah oui, on a Tacu. Déjà parlé ensemble.
Bon,
oui.
Tacu, c'est un gars de construction. »
Sur Facebook, ils sont très, très présents.
Puis son gars, il pose des questions, puis tout le temps là, « Hein? » Mais c'est ça, les gars ont tout le temps travaillé dans des endroits qui sont extrêmement bruyants. Puis là, à un moment donné, tes gars, ils se marient, ils ont des enfants, fait que t'es voix de moins en moins. Là, toi, t'es là avec ta conjointe. Des fois, la conjointe est encore là, des fois, la conjointe est partie. Si tu t'isoles, tu going down, tu t'en vas vers le bas.
Là. C'est triste parce que des fois, j'ai l'impression qu'on participe un peu à cette isolation-là de nos aînés. Tu sais, la vie va vite. Toi, comme enfant, ben, tu crées une famille, tu as ton quotidien, ta carrière qui embarque. Tu as des enfants qui vont pas nécessairement voir souvent leurs parents. J'ai l'impression qu'on contribue un peu à ça. Puis dans les dernières semaines, la semaine passée, tu étais en vacances, puis je me suis sentie un peu coupable. Parce qu'on... Puis tu vas voir, il y a un lien.
Moi, j'étais en vacances, je me sentais vraiment pas coupable.
T'as bien fait. On a reçu un gars qui s'appelle Daniel Flores, qui, lui, est un Mexicain qui est arrivé ici au Québec il y a 450 jours à peu près, OK? Puis on parlait de différences culturelles entre chez lui puis ici. Puis on parlait de ça, les aînés. Tu sais, il disait, moi, dans ma culture, chez nous, les aînés, on a le plus grand des respects. Jamais tu vas voir un plus jeune s'obstiner avec un aîné. Jamais tu vas voir un aîné maltraité. C'est comme ces deux qu'on prend le plus soin, tu sais. Puis je trouvais que c'était ironique parce que nous, j'ai l'impression qu'on infantilise nos aînés puis qu'à un moment donné, c'est comme si, bon, ben toi, t'as fait ta vie, t'as travaillé, t'as tout donné, ben maintenant, tu ne sers plus à rien à la société. Fait qu'on te met un peu de côté.
Est-ce qu'on le fait méchamment, les infantiliser? Parce que,
Pense que ça vient naturellement par la société dans laquelle on vit.
Parce que moi, je les ai côtoyés pendant quelques mois, puis effectivement, il y en a que je leur parlais plus en bébé.
Ouais.
Parce que je me rendais compte qu'il y avait peut-être besoin d'un peu plus de délicatesse, un peu plus de douceur, un peu plus d'explication. Tu sais, puis on le fait naturellement avec des bébés chats puis des bébés chiens.
Oui, mais tu sais, ces gens-là ont une tête sur ses épaules puis ils ont leur vie mais derrière la cravate.
Quand t'as de l'air faible au niveau physique, mais t'as toute ta tête, puis les gens te parlent en bébé, ça doit être atroce.
Ça doit être insultant. Après ça, on se demande pourquoi on a certaines personnes aînées qui sont plus aigries. Moi aussi, je serais fâchée de me faire traiter tout le temps comme si j'avais 10 ans puis que j'avais rien fait dans la vie.
Moi, quand ma blonde me traite de même, c'est pas...
Oh!
Quoi?
C'était-tu cochon, ton affaire? Ça va être correct, Daddy, là.
Non, mais...
non, mais tu sais, je pense à... Le grand-père de mon chum a 95 ans, OK? Ouais. Il est né en 1929. Fait que quand tu y penses, lui, il était là quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté.
Puis il était conscient.
Tu sais, c'est fou.
39-45,
absolument, ouais. Ben oui, il était ado. Fait que tu réalises que ces gens-là ont vu, entendu, vécu des affaires.
Y a-tu des articles qui disent
39-45?
Oui. Je sais-tu.
Google, d'après moi, tu vas le trouver. fait que j'ai comme le sentiment que on devrait avoir un peu plus de respect des fois. Tu sais, puis je veux dire, je suis pas mieux que n'importe qui, là. Puis chaque fois que je me ramasse avec des personnes âgées, je me dis, hey, je devrais passer plus de temps avec ces gens-là. Mais on le fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Tu sais, quand j'étais à l'école secondaire, j'étais dans un programme de PEI à l'international, puis on nous obligeait à faire des heures de bénévolat. Puis moi, j'avais décidé de les faire dans des centres de personnes âgées. Je voulais faire toutes sortes d'affaires, là, du bingo, jaser sur l'heure du midi, toutes sortes de niaiseries, mais juste pour être une présence.
Et puis quand tu n'étais pas là, est-ce que tu leur envoyais des messages audio?
Ben non, parce qu'on ne pouvait pas à ce moment-là. C'était pas encore très popularisé. J'aurais aimé ça. Remarque, ça brise l'isolement, ça aussi. Hein? Je pour les messages vocaux. Ceci dit, sans blague, il y a tellement d'affaires que j'ai appris de ces personnes âgées-là. Puis ça me brisait le cœur chaque fois que je partais parce que je me disais tout le temps, « Colin, s'il n'y a personne qui vient faire du bénévolat comme ça, qui vient ajouter du petit soleil ici et là, eux autres, ils regardent par la fenêtre de leur chambre, tu comprends? Il se passe pas grand-chose, là. Puis leur famille vient vraiment pas beaucoup les visiter, là. Mm-hmm. »
C'est cruel.
Cruel, tu dis, on va finir comme ça, mais ça me fait peur,
c'est
là.
C'est cruel, puis tu sais, moi, j'ai vu dans les châteaux Bellevue, là, après le lockdown, là, j'ai vu toutes les installations, Audrey, les allées de quilles, les bars, les petits cafés Internet. Moi, je jasais le soir, j'avais pas le droit, mais tu sais, je me disais que si ces gens-là étaient là depuis un mois, ils n'avaient pas été malades, très peu de chances de pogner la COVID. Fait qu'on organisait... c'est comme la secte que je suis en train de parler, là, mais ça s'appelait la Ligue du Vieux Poil.
Okay.
Fait que là, moi, j'étais le plus jeune de la gang. J'étais avec mes chums de 80-90, on avait un de 101 ans.
Hey.
Puis on jasait de la vie en général. Puis c'était vraiment le fun de
c'est
leur
tellement
jaser.
Enrichissant.
Mais eux autres, dans le foyer, on avait organisé comme notre secte, là.
Ouais.
Parce qu'on était écœurés d'être pognés dans les logements. Fait qu'après ça, ben, ils descendaient en bas, puis on jasait. Moi, je veillais à leur sécurité.
Mais ça devait leur
fait
faire
que, du bien. Ça leur prenait des cafés, ces messieurs-là. Ça leur prenait des biscuits. Fait que j'allais voler des biscuits à la cafétéria. Puis je leur faisais du café. Puis là, on réglait tous les sorts du monde.
Fait que t'étais illégal, mais sain.
J'étais un gentil méchant.
T'avais le bon rôle, mais...
Je voulais ce rôle-là à lutte, là, un gentil méchant, mais finalement, ils m'ont dit « Non, toi, faut que tu casses la gueule à Steven Sullivan. » Fait que j'ai fait ça, mais c'est ça, j'étais... j'essayais de rester le plus logique possible à travers des trucs qui étaient totalement illogiques. Puis je me rappelle d'une conversation qu'on a eue, toi et moi, puis je t'ai rappelé cet incident-là où une mère de famille était... elle trouvait ça épouvantable de ne pas pouvoir voir sa mère qui était à l'intérieur des murs. Et moi, on m'avait dit, ben la famille n'a pas le droit de visiter. Et je trouvais ça terrible, tu sais. Puis elle m'avait dit à un moment donné, « Oui, mais pourquoi toi, tu as le droit d'être là, puis moi, j'ai pas le droit de rencontrer ma mère alors que les deux, on n'a pas la COVID? » Puis là, j'ai dit, « Madame, je peux pas vous empêcher de la sortir puis de la ramener avec vous, chez vous, puis vous en occuper pendant 3 semaines. Par contre, je peux vous empêcher de rentrer. » Fait que ce que vous pouvez faire, c'est me dire, « Yann, tu peux-tu aller chercher ma mère en haut, y mettre son manteau, la mettre dans le fauteuil roulant, l'aider à embarquer dans la voiture, puis vous pouvez partir avec. » Puis cette dame-là, à un moment donné, elle a juste dit, « OK, non, c'est correct, je comprends, puis elle est partie. » Tu comprends? Fait qu'il y avait beaucoup de critiques à l'égard des établissements pour personnes d'expérience, mais de l'autre côté, cette dame-là...
Elle n'aurait pas voulu s'en occuper elle-même.
Elle ne voulait pas s'en occuper.
Mais tu vois, c'est ça que je trouve ironique. Oui, puis des fois, je pense à bon, nos parents qui vieillissent, puis j'ai eu cette discussion-là avec mon chum sur qu'est-ce qu'on va faire avec nos parents, tu sais, parce que moi, j'ai vraiment pas l'intention et l'envie que mes parents se ramassent dans un CHSLD, là, tu comprends, ou bref, qu'ils soient pas dans un endroit où ils sont bien. Parce que t'en as des super belles RPA, là, où c'est super le fun de vivre, puis mais t'as des endroits qui sont un peu moins top. Puis je veux dire, moi, mon chum m'a dit assez rapidement que ça va être une affaire de bigénérationnel, ou du moins, on va s'organiser pour être voisins pas trop loin. Ouais. Puis on va être proche, tu sais, de nos parents le plus possible.
Grèce, Italie, c'est des sociétés qui sont un peu comme ça. Dans la maison, les personnes âgées sont là et s'occupent des petits-enfants. C'est sûr que les loyers sont peut-être un peu plus élevés. Les maisons coûtent peut-être beaucoup trop cher pour le salaire moyen des individus. Mais il y a trois générations dans la maison.
Mais pourquoi on n'a pas ça, tu sais?
Ça se faisait anciennement.
C'est-tu qu'on est rendu un peu individualiste, le fait qu'on est, carriériste, que je sais pas, j'ai de la misère à comprendre où le switch s'est fait.
Ça se faisait anciennement. Puis tu vois, c'est tellement ancré en nous. Puis peut-être qu'on pourrait poser cette question-là aux auditeurs puis y répondre. 418-971-1021, 418-971-1021. Mais moi, je ne voudrais jamais être un boulet pour mes enfants.
Ouais, je comprends.
Donc, tu sais, ils veulent venir me voir, ça va me faire plaisir de toujours les accueillir. Si un moment donné, ils me disent « Père, t'as de la misère à marcher, tu veux-tu venir chez nous? Il y a une shed à côté de la maison, tu pourrais habiter là-dedans. » Je vais accepter, mais je vais me sentir mal.
Ouais, je comprends. Mais tu vas l'impression d'être un boulet au quotidien. Là.
C'est ça. Ben, peut-être que c'est ma façon de voir les choses qui est erronée, là, mais j'ai longtemps, tu sais, je me suis longtemps posé la question « Est-ce que si j'ai 80 ans et je suis tout seul, Est-ce que je voudrais que mes gars m'amènent avec eux? Ben, pas tant. Je voudrais les voir souvent. Eux auraient le droit de venir rester avec nous, avec moi jusqu'à temps que j'aie 80 ans, parce que je sais que je serais bénéfique pour eux et je serais un plus. Mais s'ils me disent « Pat et Magané, viens vivre avec nous autres », j'aurais de la misère avec ça. Je préférerais quasiment aller dans un foyer de personnes d'expérience.
Mais le pire, c'est qu'on a créé ça.
Oh, ouais, sûrement.
C'est nous autres qui a créé ce sentiment-là.
C'est une façon de voir les choses.
On s'est implanté un peu cette façon de penser-là. Bref, je trouve ça triste.
Des gens qui nous écrivent, je suis prêt à m'occuper de mes parents jusqu'à la fin et ils le savent.
Chapeau.
Quelqu'un qui me dit « Allô, ma fille adore le roi lion. » Et moi, de répondre « C'est moi le roi lion. » Je pense qu'elle écrivait à Weekend.
Oui, je pense que c'est ça. Des fois, nos auditeurs se trompent de station. Des fois, Weekend reçoit des textos de boulevard et l'inverse est aussi vrai.
Ben, c'est pas grave. Moi, une Karine qui m'écrit qui dit qu'elle aime le roi lion.
T'es content, là. C'est...
Avoir des enfants à 25 ans et une bigénération, it make a lot of sense. Ben oui. Ils peuvent garder des enfants.
Ben non, mais c'est ça. C'est
le problème
c'est
quand t'es
grand-parent,
c'est que, tu sais, moi, j'ai rencontré un grand-père là, il y a quelques semaines dans Marceau Soir, puis il m'a dit « Grand-parent, c'est la plus belle job du monde parce que quand t'es écœuré, tu t'en vas reporter. »
Ouais, c'est vrai, par exemple. C'est un très bon point, mais moi, tu vois, j'imagine bien ça. Tu sais, je te dis pas là, mettons, là, c'est plus plate, tu construis ta vie, mais tu sais, mettons, je m'imagine plus tard, dans 10 ans, avec une jeune famille, puis tu sais, je trouverais ça cool de penser à un avenir où je peux créer un projet, justement, familial, où tout le monde est pas loin, puis où on est capable de s'entraider, tu fous de la paix aussi, mais tu sais, qu'on est capable d'être ensemble.
Ça, c'est parce que les maisons coûtent cher, ouais.
C'est-tu quoi? Je me demande des fois, c'est pas un retour de ça parce que les maisons coûtent cher. Non, mais c'est pas con ce que tu dis.
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu veux régler tes besoins, là.
Ben, totalement.
Tu vas accepter des choses que normalement, t'accepterais pas.
Oui.
Mais l'idée est pas folle. Puis moi, je suis content de voir les auditeurs, là. Tu sais, ils reprendraient leurs parents demain.
Puis chapeau, mais en même temps, je peux pas juger ceux qui le feraient pas.
Oui. Mais tu veux-tu ta belle-mère dans la maison tout le temps?
Ben, c'est un peu. Non! Non, mais je veux pas ma mère non plus dans la maison tout le temps.
On les salue. Hein?
Oui, on les salue, puis je les aime d'amour, puis ils savent. Et oui, je pense pas qu'ils prendraient mal, sont pas collants. Là. Ouais. Voisin, j'haïrais pas ça, mais il faut qu'on soit capable de se laisser notre espace. Je pense que ça fait partie du deal. Tu sais, moi, il faut un mur entre nous deux, là.
OK, il faut qu'il y ait un mur.
Oh, oui, on n'habite pas dans la même maison, là. On habite dans le même building, là, au pire, là, mais...
Oui, mais pas tant.
Ben non, mais faut une intimité. Je veux garder ma bulle. Ils ont besoin de leur bulle aussi. On habite tous sur le même terrain. J'ai pas de problème avec ça.
Comment tu vas les appeler, tes enfants?
J'ai des listes. Pour une petite fille,
ouais.
Il y a quelques options. Je te dirais que le plus populaire en ce moment, c'est Adaline.
Parfait. Adaline. Adaline a 3 ans. Adaline est tannante.
Ouais.
Toi, ça fait 3 ans que tu gères Adaline.
Ouais.
Puis là, t'es... j'ai juste le mot en anglais, mais t'es... exhaust.
Épuisé.
T'es épuisé, mais t'essaies de faire de ton mieux. Puis là, t'as ta belle-mère.
Mm-hmm.
Qui a élevé ton chum,
ouais.
Qui a aussi des défauts,
ouais.
qui vient te voir et qui dit « Audrey, Adaline, tu ne l'élèves pas sur le sens du monde, tu devrais faire ça.
Hmm. »
C'est là le mur, là. Tu lui dis « Va l'autre bord du mur. »
Sais-tu quoi? Je suis vraiment chanceuse parce que ma belle-mère est la dame la moins tannante que je connaisse. Ouais. C'est vraiment une dame qui s'est toujours mêlée de ses trucs puis qui rentre pas dans tes plates-bandes. Hmm. Avec mes parents, je pense que je le dirais. Avec mes beaux-parents, je dirais à mon chum de s'en occuper. Non, mais chacun gère ses parents.
Ah, Marie-Ève qui dit « Tu vois, Yann, je viens d'une région éloignée et je veux amener mes parents à Québec avant qu'ils deviennent trop malades et c'est eux qui refusent comme toi, alors que moi, je vois cela à l'inverse. Je veux passer des bons moments heureux avant qu'ils soient trop âgés. » Je te salue, Marie-Ève. Mm. Je trouve ça intéressant. Puis tu peux continuer de discuter avec eux autres. Ça se peut à un moment donné que tu es convaincre. Puis au gros père, tu diras que c'est toi qui a besoin d'eux et non l'inverse. Nous, on est prêts à construire une mini-maison sur notre terrain pour les accueillir. Ils ont tellement peur de nous déranger.
Ah, oh, mais ouais, tu sais, c'est
beau, je fais partie de cette génération-là, même si je suis jeune quand même. Là.
Mais tu sais, imagine que t'es dans le shed en arrière.
Je
peux
plus dire j'ai 25 ans parce que les filles ne me croient plus, mais non, mettons que je suis encore très jeune.
Le petit, j'allais dire le petit poivre et sel, mais t'es zéro poivre et sel. T'es non, chanceux.
J'en
hein?
ai un petit peu dans la barbe.
Mais t'as aucune trahison. 25 ans, faut pas pousser, là, mais tu pourrais passer pour 35, mettons.
Non, 31, là.
Pousse pas. Pousse, mais pousse égal.
Avant, les madames travaillaient pas et leur intimité était pas une priorité alors qu'ils s'occupaient de leurs parents.
Oui, bien là, c'est ça, ça a changé, exactement. C'est on n'est plus, on est ailleurs, là. Il y a quelqu'un qui nous dit, moi, je les prendrais pas avec moi, mais les cours à tous les soirs et j'habite la municipalité d'à côté. Je leur ai toujours dit que je ferais tout pour qu'ils puissent rester sur leur gros terrain de rêve dans le sens où ils ont toujours été là. Puis pour moi, c'est à mon tour d'être là pour eux. Je trouve ça super beau. Ma sœur Caro a été avec ma mère pour s'occuper de mon père jusqu'à la fin. Puis ensuite, elles ont acheté une maison ensemble et elle s'est occupée de ma mère jusqu'à la fin aussi. Respect.
Ça, j'en vois beaucoup. Des gens seuls qui deviennent colocs de leur père ou de leur mère, qui ont perdu conjoint, conjointe. J'en vois beaucoup plus qu'avant. Sur le terrain, là?
Oui.
J'étais un gars de terrain, moi.
Oui, oui, non, mais moi, je créerais un projet, justement. Pas dans la même maison. Je pense qu'il y a comme une certaine limite, là. Mais sur le même terrain où on achète, genre... non, mais oui...
Quelle hauteur, la clôture?
Ah, franchement...
Quelle hauteur?
Ben, j'ai pas besoin de clôture.
Non?
J'ai pas une fille de clôture, non. Non, j'aime pas les clôtures. J'aime les grands terrains vastes.
Mais tu veux un mur pour la maison?
Ben oui, qu'on habite chacun dans nos affaires, qu'ils puissent décorer comme ça le temps.
Puis s'il y a un mur, puis chacun de votre bord, les têtes de lit touchent à ce mur-là...
C'est correct.
Hé! Hey.
Pas la fin du monde.
OK.
Ça change dans une maison.
Merci, Audrey. Vous avez des choses à nous dire? C'est le 88-971-1021, 88-971-1021. On a des promos? On a des promos avec le Carnaval de Québec?
Oui, le Carnaval de Québec qui s'en vient assez rapidement. Merci. Je vais être là le 12 février. Il y a une grande soirée danse en ligne avec la gang de Weekend.
Non.
Oui, mais là, on n'ira pas là.
C'est pas ça?
On va faire la plus grande danse en ligne.
Donc, on va être dehors au Carnaval de Québec. C'est en collaboration avec l'Auto-Québec. C'est 6 soirées sur la scène de l'Auto-Québec sous le dôme avec l'excellente Mariana Mazza et ses invités pour le spectacle Toon et Plaisanterie. Soldier qui va être là, l'excellente Sarah Dufour, Abstract. Moi, mon band de Québec, c'est vraiment les Karma Chameleons. Si vous les avez jamais vus, ça va faire partie de vos plus beaux souvenirs. Comme Audrey dit, le 12 février, c'est une belle soirée pour les gens qui aiment danser, même dans les endroits où c'est inapproprié, que la soirée Zone Country Weekend 91.9, qui est notre station sœur. Richard Martineau a dit que Boulevard était sa station sœur hier en passant sur les zones montréalaises.
C'est vrai, tu y as jasé, hein?
J'y ai parlé pendant quoi, 10-15 minutes à peu près, et a dit que c'était notre station sœur.
C'est beau,
est-ce
ça.
Qu'on peut dire que 99.5 Montréal est notre station sœur maintenant?
Ben, techniquement, oui, parce qu'on a les mêmes parents.
Donc, du 7 au 16 février au Carnaval de Québec, ne manquez pas ça parce qu'il va y avoir beaucoup d'activités. Les Fiji, comment ça coûte cette année? Vous êtes chanceux, c'est moins de 40$, 39$ que vous pouvez amener au couche-tard pour avoir votre effigie ou encore aller vous informer au carnaval.qc.ca. On revient. All right, 11h11, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101 dans l'Open Mic. Mon nom, c'est Marceau. Son nom à elle, c'est Audrey Pinchot. Si vous voulez la contacter pour lui dire Audrey, cesse de dire des méchancetés. À Yannick, 418-971-1021. On vous salue les gens qui travaillent à l'extérieur. C'est moins 19 actuellement. Mais si vous êtes sur le tarmac de l'aéroport de Québec, d'en face pendant que tu débarques les valises pour les mettre dans l'avion pour que des voyageurs puissent aller vers Cancun, toi, dans ta face, c'est une température ressentie de moins 31 que tu ressens.
Et on pense à toi.
Lâche pas, mon pote. C'est ensoleillé tout au long de la journée. C'est au moins ça. Tu vas pouvoir affûter ton bronzage. Accumulation de neige ce soir de 5 cm. De la neige pour demain, qui devrait cesser en mi-journée. Accumulation de neige de 2 cm par endroit. Minimum de moins 20, maximum de moins 6. Samedi, ensoleillé, maximum de moins 13. Et dimanche, c'est de la neige intermittente, maximum de moins 12 degrés. De quoi je voulais te parler? The Food Professor, tu connais?
Food Professor.
Sylvain Charlebois, qui est directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. Lui est à l'Université de Dalhousie. On lui parle une fois de temps en temps. On lui a parlé sur l'heure du midi quelques fois. Quelqu'un que j'aime bien lire dans la presse et entendre en entrevue, bien entendu. Il parlait ce matin du 10e anniversaire du scandale de la fixation des prix du pain.
Oh,
parce qu'il y a
Dieu.
Des gens qui s'étaient entendus pour fixer le prix du pain et ça avait fait jaser ça comme pas possible. Ça a été lancé en 2015. Puis c'est le travail du bureau de la concurrence qui avait investigué là-dessus. On avait découvert que Loblaws, Weston Bakery, qui a été vendu depuis, Canada Bread, qui ont fait face à leurs conséquences. Ils ont dû redonner énormément, mais énormément d'argent. Puis pourquoi il parle de ça? C'est qu'il fait un lien avec les fameuses balances qui trichent à l'épicerie.
Qu'est-ce que tu veux dire, les balances qui trichent?
Exemple, quand tu vas te chercher un paquet de viande hachée.
Ouais.
Bon, mi-maigre.
Oui.
On est assez précis. Faut être précis. Le boucher, lui, il prend sa viande puis il met ça dans une petite assiette.
Oui.
En styrofoam.
Oui.
Blanc.
Mm-hmm.
Avec le plastique.
Mm-hmm.
Puis il dit, ah, ça pèse tant, donc ça vaut tant. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que ces balances-là peuvent être pas nécessairement bien calibrées, mais en plus, on charge le prix du styrofoam, puis on charge le prix du plastique, puis en plus, on charge le prix du petit collant qui est au-dessus.
Oh, mais là, ça à ta minute. Là, on apprend ça au secondaire, là, quand tu pèses en chimie, qu'il faut que tu remettes ta balance à zéro quand tu as mis ton contenant.
Ce qu'il faudrait faire,
c'est la base,
c'est de mettre directement la viande hachée directement sur la balance, puis là, voir le vrai poids. Mais pour eux, ça va pas mal plus vite de prendre le truc de styrofoam, de mettre ça là, mais là, on emballe ça, on étiquette ça, merci, bonsoir, c'est parti. Mais ils se sont rendus compte que finalement, c'est pas la viande hachée que tu as représente pas le poids que tu payes.
Fait qu'on paye trop cher.
Fait qu'on paye trop cher. Et là, on est en train de se demander si justement on n'ira pas dans un gros recours collectif là-dessus. Il y en a qui vont dire, hey, c'est super banal, Yann, mais OK, je vais vous poser la question. Qui vous dit que ce que vous avez dans votre voiture lorsque vous faites le plein, c'est le nombre de litres exact?
Je vais faire une confidence là-dessus.
La température peut jouer là-dessus. Mm. Quand il fait un genre de moins 30, là, versus quand il fait un genre de 15 degrés, c'est pas la même chose dans la pompe, là. Je parle de la station-service.
Oui. Je suis un peu débile là-dessus. Parce que été comme hiver, j'ai l'impression qu'on me vole du gaz quand je prépaye. Tu sais, quand tu prépayes à la fin, là, pour arriver, mettons, je sais pas, là, à 80$, le débit ralentit pour que tu arrives. C'est comme si dans ma tête, il y a moins de gaz qui rentre. Fait que ce que je fais à la place de prépayer 80$, je vais le remplir moi-même pour être sûr que le flot de gaz soit toujours le même. Puis après, je vais aller payer. Comprends-tu ce que je veux dire?
T'es fuckerant.
J'ai l'impression qu'on me... Non, mais c'est mon petit côté complotiste.
T'es-tu le genre de personne qui dit, moi, ça n'a jamais fait la différence sur le prix du gaz, je mets tout le temps 20$?
Non. Je roulerai pas loin entre toi et moi, là, fait que non.
Mais c'est ça. Tu sais, il y a du calibrage qui doit se faire avec ces fameuses pompes de station-service. Puis quelquefois, il y a des inspecteurs qui passent. Mais il y a des gens qui m'ont rapporté, et ça, je pense qu'il n'y a pas eu d'article décrit là-dessus, mais il y a des gens qui m'ont rapporté que parfois, ils mettaient le même nombre de litres quand leur voiture était complètement vide, mettait le même nombre de litres. Puis des fois, il y avait une différence de variation.
Mais j'en doute pas.
Est-ce que c'est le problème de la température? C'est-tu parce qu'il fait trop froid? sais-tu, toutes ces affaires-là...
Il devrait y avoir un investissement.
On fait vraiment confiance aux gens jusqu'à temps que tu aies justement le truc de fixation des prix dans le secteur de l'Estrie où on s'est rendu compte. Je sais que c'est la seule place où ils font ça. Mais il y avait des propriétaires de stations-service qui faisaient exprès pour conserver les prix hauts. Ça n'arrive pas nulle part ailleurs. Mais là-bas, ils se sont rendus compte qu'il y avait un cartel. Puis là, ils ont dit, vous êtes méchant, donne-moi ta main. Tain. Puis là, la personne a dit, ouch! En tant que multimillionnaire, la petite tape sur la main, ça me fait mal. Fait qu'ils ont donné des coupons de 1$, 2$ aux gens autour pour qu'ils puissent récupérer l'argent qui s'était fait voler parce que les crosseurs ont volé leur clientèle pendant des années et des années. Fait que là, c'est ce que Sylvain Charlebois nous jase ce matin dans la presse, c'est qu'il y a eu effectivement le fameux scandale, la fixation des prix pour le pain, mais on fait vraiment confiance dans la vie, puis on se rend compte que des fois, on se fait avoir.
Mais c'est surtout le fait, j'ai l'impression aussi, que c'est tellement des petites affaires banales qu'on dirait qu'au quotidien, tu t'en rends pas trop compte, ça fait pas trop mal. C'est juste que là, t'accumules tous les endroits puis toutes les petites affaires banales, puis à un moment donné, tu te rends compte que, OK, c'est de l'argent que je pourrais sauver, là.
Comment tu fais pour savoir... Mettons que tu prends du bœuf haché, là.
Oui.
Comment tu fais, toi, pour évaluer le gras qu'il y a dans ton bœuf haché versus la viande?
Oh, bien là, écoute, je vais te répondre ça très simplement. Là. Moi, je prends tout le temps la extra maigre. Je suis un peu débile.
OK, mais comment tu fais pour savoir si c'est bel et bien le bon pourcentage?
Ben non, je peux pas le savoir. L'étiquette me donne pas tous ces détails-là. Faut que je fasse confiance.
Sache que les bannières peuvent jouer aussi avec le gras qui est dans ton bœuf haché ou ton bœuf haché mi-maigre.
J'avais même déjà entendu qu'ils mélangeaient les viandes de temps en temps. Du porc et du bœuf, mettons.
Ouais. Il y a plus que ça, là. Ils font des trucs qu'on ne peut pas s'imaginer, mais on a tendance à leur faire confiance. Donc, l'importance de continuer de surveiller, c'est pour les viandes. Même la teneur en gras du bœuf haché extra maigre, dont le prix a augmenté de 15 % au cours de la dernière année, pourrait être mise en doute. Selon la réglementation, le bœuf haché extra maigre au Canada ne doit pas contenir plus de 10 % de gras en poids. Le consommateur peut-il être sûr que cette norme est respectée? La réponse, c'est non. Donc, s'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Ça n'arrive pas là, pour du profit, ça n'a jamais arrivé. Mais s'il y a des gens qui sont mal intentionnés, ben ils peuvent... Tu sais, ton bœuf haché, mais maigre, là.
Ouais.
Ça se peut que toi, tu ne sois pas une experte et que tu n'aies pas de laboratoire chez vous. Là. Ça se peut que tu t'en rendes pas compte et qu'eux augmentent leur profit de leur côté.
Et c'est là, mes amis, que vous vous tournez vers les boucheries locales. Pour vrai.
Très bon point.
Moi, honnêtement,
encourager le local.
Encourager les boucheries autour de chez vous. Vous savez que le poids que vous allez demander, ça va être le bon parce qu'il pèse devant vous. Vous savez que la viande que vous achetez, ça va être exactement ce que vous désirez. Puis je veux dire, la différence de prix est vraiment pas énorme, mais vous avez une qualité, puis vous encouragez les gens d'ici, puis la production d'ici.
Il y a quelqu'un qui me dit « Salut pour l'essence. Ma Corolla avait un réservoir de 40 litres.
Ouais.
45 avec la réserve. Hey, » je savais pas que vous aviez une réserve de 5 litres. « J'arrête faire le plein. La voiture n'est pas vide. Le 5 litres de réserve était certainement encore dans le réservoir et j'ai pu mettre 45 litres. » Donc, tu comprends qu'elle se dit « Il y a peut-être un 5 litres que je me suis fait voler sur le fameux 40 litres que j'étais supposé de mettre. » Donc, elle l'a payé, ça. Elle dit « Je ne suis pas retourné dans cette station-service. » Juste un indice comme ça, je ne sais pas si ça se fait encore, mais moi, je me souviens d'avoir vu visuellement des collants qui mentionnaient qu'il y avait un inspecteur du Canada qui était passé puis qui avait vérifié ce que la pompe te donnait en termes de litres, à savoir si la pompe était bien calibrée ou non. Tu avais vraiment une date d'inscription, mais ceux que j'avais vus dataient déjà de genre 3-4 ans.
Oui, c'est ça. Ce qui pourrait être rassurant, finalement, de remettre à jour. Là.
Exact. All right. Hey, c'est déjà tout, Audrey, mais juste avant, je veux te parler de quelque chose. On a parlé de la soirée musicale du carnaval, mais je veux continuer de te parler du carnaval parce que du 7 au 16 février, dehors au Carnaval de Québec en collaboration avec l'Auto-Québec. Que tu sois rock, pop, country ou encore même classique, viens découvrir le Jukebox Craft au Carnaval de Québec. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas Audrey qui s'en occupe.
Non.
Assiste à des spectacles avec Boy Band, Best Of, DJ Bonhomme qui va être sur place. Mm-hmm. Donc, tu vas pouvoir montrer tes talents au Music Quiz Craft et jouer des instruments de glace à la Disco Symphonique Craft Dinner. Fait que ça va être un beau party pour consulter l'horaire du Jukebox Craft.
C'est dur à dire, hein?
Jukebox Craft. Visitez le Carnaval .qc.ca.
Je vais juste leur dire une dernière fois.
Vous allez passer un super beau moment au Jukebox Craft.
Yeah! À demain!
Un chasseur.
Ça change.
Chasser. peut chasser sans son chien. Dis-le tout seul, puis plus vite.
Un chasseur sachant chasser peut chasser sans son chien. Tu sais pas à quel point je suis bonne là-dedans.
Vilain pingouin, délinquance sur boulevard, ça a été un plaisir de vous accompagner dans l'Open Mic. Restez là, Pascal CV s'en vient. On va avoir un expert en aviation dans les prochaines minutes pour nous expliquer qu'est-ce qui se serait passé dans le secteur de Washington où 67 personnes auraient perdu la vie.
Plus! Sa mère, elle aimait plus.